Bonjour Luc.
Bonjour Steve.
Les vrais enjeux semblent enfin vouloir revenir à la surface dans cette campagne fédérale.
Les vraies affaires? Peut-être qu'on va finalement parler des vraies affaires dans cette campagne. Tu sais que ça avait marché au provincial en 2014.
Des vraies affaires.
Alors, écoute, puis on le voit dans les intentions de vote depuis le début de la campagne, ça bouge pas beaucoup, puis il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour cette campagne-là. Et hier soir, j'étais à Montréal pour faire une présentation justement sur les tendances en début de campagne. C'est un petit peu ce que les gens disaient, là. « Ah, pas trop intéressé par ça, on va-tu parler des vrais enjeux? » Pensez-vous qu'on va finalement parler d'environnement? Est-ce que la marche sur le climat, vendredi, ça va amener le sujet de l'environnement sur la table?
Ça semble être le cas.
Ben oui, mais je pense que quand on va regarder la couverture médiatique de ce qui va se passer vendredi, on risque d'être plus sur la forme que sur le fond. C'est un petit peu comme la marche pour la fierté gay. Là. Qui était là, qui n'était pas là, pourquoi, puis qu'est-ce qu'ils ont dit sur Greta? Je pense qu'on va tourner pas mal autour de ça. Mais ceci étant dit, avec les débats qui approchent, les chefs doivent sortir du contenu. Parce que si tu veux débattre de tes positions, il faut que tu les aies fait connaître avant. Et puis là, finalement, hier, les libéraux, enfin, ont parlé d'environnement. Écoute, ça a pris du temps. Parce que rappelle-toi que Justin Trudeau a dit qu'il voulait faire de l'environnement la question de l'urne. Ce sur quoi les électeurs allaient devoir trancher. Ne pas parler beaucoup d'environnement depuis le début de la campagne, bien honnêtement. Alors, hier, il en a parlé. Bon, il a pris un engagement à ce qu'on soit à zéro émission de gaz à effet de serre d'ici 2050.
En fait, on veut être carboneutre.
Hein? Ben, c'est ça.
Il y a une petite nuance parce qu'on va continuer d'en émettre,
On va avoir des mesures compensatoires. Mm-hmm. Alors là, bon, il s'est critiqué, il y a un petit peu de scepticisme, mais au moins, on débat sur le fond.
Au moins, il y a une proposition.
Oui, mais on débat sur le fond des choses. Ça nous fait un petit peu de bien dans cette campagne électorale-là. Et aussi, ça lui permet, dans une publicité, de mettre en valeur son candidat vedette au Québec, qui est Stephen Guilbeault, qui vient un petit peu crédibiliser justement le plan environnemental
beaucoup, des libéraux. Beaucoup, je pense. Beaucoup parce que le plan environnemental est curieux. T'sais, la plupart des gens vont dire c'est inaccessible. Mm-hmm. On n'est pas en mesure d'atteindre nos cibles à chaque fois. Donc, pourquoi cette fois-ci, ce serait différent? Mais Guilbeault a passé sa vie à militer pour l'environnement.
Oui, puis ça vient contrebalancer un petit peu l'histoire du pipeline.
Aussi.
Parce que ça vient miner la crédibilité des libéraux sur la question environnementale, alors que lui passe l'éponge là-dessus puis dit « Regardez, il faut regarder autre chose. »
Mais c'est pour ça
l'ensemble de l'œuvre.
Je pense que c'est pour ça qu'on fait l'approche carboneutre aussi. Parce que c'est pour dire aux provinces de l'Ouest, vous allez continuer à polluer, mais il y aura des mesures pour atténuer ça. Donc, tu ne veux pas perdre tes chances dans l'Ouest et / Colombie-Britannique, peut-être. Là.
Mais ça leur permet quand même de prétendre que oui, il y aura zéro émission parce que ça va être compensé en 2050. C'est un petit peu ça le message qui est donné par les libéraux. Les conservateurs, oui, sont beaucoup à l'attaque depuis le début de la campagne, mais remarque qu'eux autres sont quand même sur leur question de l'urne. Parce que Andrew Scheer, lui, nous avait dit la question de l'urne, c'est le coût de la vie. Et puis, il avait raison parce que nous, on l'avait démontré dans un sondage que les Canadiens, eux autres, ont l'impression que le coût de la vie a augmenté au Canada depuis 4 ans. Puis tu vois qu'ils proposent beaucoup de mesures fiscales puis de remettre de l'argent dans les poches du monde pour vous maintenant.
Et c'est leur force. De toute façon, c'est leur force.
Mm-hmm. Alors, ils nous parlent beaucoup de ça depuis le début de la campagne électorale. Mais ça, je pense qu'on va le voir encore plus au cours des prochains jours à l'approche des débats. Et moi, je pense, Steve, lorsqu'on va commencer à parler justement des vrais enjeux, là, peut-être qu'on va voir davantage l'aiguille des intentions de vote bouger. Parce que lorsqu'on demande aux gens à quel parti ou à quel chef ils accordent la plus grande crédibilité selon les enjeux, c'est très variable.
OK.
Alors, tout dépendamment de quelle est ta priorité, peut-être que tu vas orienter ton choix en conséquence. Comme par exemple, lorsqu'on demande aux Canadiens, et ça, c'est des données d'hier, alors, donc je te donne du matériel tout frais, tout frais.
Tout neuf.
Tout neuf. Alors, lorsqu'on demande aux Canadiens, quel chef de parti croyez-vous le plus apte à faire face à l'enjeu des changements climatiques? Alors là, Justin Trudeau arrive premier, mais avec 26 %. Suit Elisabeth May, 24 % du Parti vert. Et puis Andrew Scheer, 21 %. Parce qu'évidemment, il y a toujours des résidus pour les conservateurs.
Oui, mais je suis quand même surpris. Je suis quand même surpris de la hauteur du pourcentage de vote pour Scheer.
Oui.
Quand même.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, c'est un enjeu qui touche beaucoup les jeunes. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qu'en pensent les 18-34 ans? Bien, évidemment, c'est Elisabeth May, là, qui arrive en première position. Et Justin Trudeau, il arrive troisième. Rappelle-toi que lui a été élu en 2015 en mobilisant beaucoup les jeunes autour, oui, de sa façon de faire de la politique, mais aussi autour de certains enjeux.
Un grand perdant NPD sur la question, hein?
Ben oui, mais sur la plupart de... ils se font gruger à gauche puis à droite. Là, ça fait en sorte que sur l'ensemble des questions, c'est assez difficile pour le NPD.
Okay.
L'autre question, c'est lorsqu'on demande aux Canadiens qui est le chef qui est le mieux placé pour défendre les intérêts du Canada sur la scène internationale. Puis là, post-blackface, tout le monde dit « Hey, on est la risée du monde entier! » Puis même Donald Trump, il commente les photos de Justin Trudeau. Fait qu'il faudrait arrêter de faire rire de nous autres pour avoir quelqu'un qui a de l'allure sur la scène internationale. Mais en date d'aujourd'hui, c'est quand même Justin Trudeau qui est le mieux perçu pour défendre les intérêts du Canada sur la scène internationale à 39 %. Fait que c'est toute une gifle pour les autres, on va te le dire. Puis Andrew Scheer arrive deuxième à 33. Pour renforcer l'économie, c'est Andrew Scheer qui arrive en première position, sans surprise, 38 %. Donc, on voit qu'il y a raison de faire campagne sur des questions liées à l'économie, le coût de la vie. Donc, on voit vraiment qu'il cible bien son électorat. Sur l'enjeu du logement abordable, curieusement, ce sont les conservateurs qui arrivent en premier, ça s'explique. Premier, mais à 27 %. C'est parce que là-dessus, le vote progressiste, il est très éclaté. On pense aux libéraux. Là, on pense au NPD sur cette question-là. C'est la question où Jack Mitzing score le plus à 23 %. Donc, les choses s'expliquent. Pour la question des soins de santé, à qui on fait confiance pour améliorer l'accès aux soins de santé? Ben, c'est aux libéraux et à Justin Trudeau qui arrivent en première position à 30 %. Et la bonne nouvelle pour Justin Trudeau là-dedans, c'est que le groupe d'âge où il score le plus sur cette question-là, ce sont les 65 ans et plus. D'une part, ce sont les gens qui votent le plus, mais ce sont aussi les gens qui sont les plus préoccupés par la question des soins de santé, parce que c'est là que tu en consommes le plus dans ta vie. On va se le dire. Alors, pour lui, c'est une bonne nouvelle lorsqu'il va parler de ces sujets-là pour pouvoir mobiliser son électorat. Et puis, finalement, la question qui tue, t'sais, comment tout le monde en parle, quel chef est le plus susceptible de pouvoir offrir aux Canadiens un gouvernement éthique, honnête et transparent? Alors, qui tu penses arrive en première position?
J'ai vu ta roulette, mais écoute... Oui, mais je me doutais que les libéraux... Je me doutais que les libéraux auraient de la misère là-dessus de par les histoires récentes et aussi de par l'usure du pouvoir, tout simplement.
Oui. Ben, effectivement, alors, c'est les conservateurs qui arrivent en première position, quand même pas loin devant, 28. Ben oui. Les libéraux, 23. Mais les libéraux sont premiers chez les femmes. Alors, les femmes font encore confiance à Justin Trudeau. Le score est pas très élevé.
Et à son éthique.
Oui. Hein? Et encore là, un indicateur qui ne trompe pas. Justin Trudeau est troisième sur cette question-là chez les 18-34 ans. Alors, pour une catégorie de personnes qui ont une vision très idéaliste, qui ont beaucoup d'espoir dans la politique, ça aussi, ça envoie un dur message.
S'il y a une inquiétude, je trouve, là, dans ce qui ressort, là, entre autres dans tes différents aspects de sondage, c'est la désaffection des jeunes.
Ouais.
Qui l'avait aidé grandement le
parti au pouvoir.
Je ne dis pas que les jeunes ne votent pas tous massivement, là, mais c'était quand même une portion
importante.
Mais
ils avaient mobilisé. Alors là, la grande question, ça va être de savoir, en 2019, est-ce qu'ils vont voter pour un autre parti?
Vont-ils voter ou s'abstenir?
Vont-ils voter?
Ça, c'est l'autre affaire.
On va voir.
Merci beaucoup, Luc.
À demain.
On se parle demain.